Mais permettez-moi de vous dire avec une illustration que vous allez certainement comprendre, nous faisons partie de ceux qui étaient morts. On ne pouvait pas déranger qui que ce soit, puisque nous étions morts. Comprenez? Mais aujourd'hui, parce que Dieu nous a donné à la vie, à des fois on gêne les gens. Parce que cette vie qui est Jésus en nous est manifestée, et à des fois ça dérange les gens. Qu'on parle de tout, ils acceptent, mais lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on laisse cette vie s'exprimer en nous, ça les dérange. Mais tant mieux, ça les dérange. Ça prouve bien qu'on est disciple de Jésus, puisque Jésus lui-même, au travers de sa vie, a souvent été confronté à ce genre de position. Et nous avons cette vie. Gloire à Dieu. J'ai apprécié ce matin la participation des uns des autres, que ce soit par les chants, que ce soit par les expressions personnelles, les louanges, que Dieu soit béni. Alors, si vous avez le texte sous les yeux, du moins dans Acte 1, versets 2 à 3, alors j'aimerais vous dire simplement pour vous situer par rapport à notre ministère. On a été converti à Saint-Denis de la Réunion sous la responsabilité du missionnaire Aimé Cizeron, que beaucoup connaissent, avec leurs fils Jean et David. Et on s'est livré, on s'est consacré à l'œuvre de Dieu, moi et mon épouse, en 2000. Et donc depuis, on a un peu circulé dans le pays, hein, puisqu'on a été sur la région de Saint-Philippe. Je ne sais pas s'il y a des Réunionnais qui savent où se trouve Saint-Philippe, dans l'extrême sud, hein, de l'île. Hein, Saint-Philippe, on a commencé à Saint-Philippe. Dans une assemblée, il y avait 15 personnes. Mais on était fiers, on était heureux. 15 personnes. Et on est retourné à Saint-Denis ensuite. De Saint-Denis, on est parti à Sainte-Marie, pas plus trop loin. Sainte-Marie à Sainte-Suzanne, il y a quelqu'un de l'Est là tout à l'heure, le frère Imar. Hein. Donc de Sainte-Marie à Sainte-Suzanne, et Sainte-Suzanne, on est à Saint-Joseph. Je ne sais pas où Dieu veut encore nous conduire, mais enfin, pour l'instant, on est à Saint-Joseph. Hein. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, juste pour vous situer, hein, voilà. Donc, j'ai noté comme titre dans mon message l'épreuve de la Pâque. On a besoin de prouver aux gens qu'on est réellement vivant, qu'on est chrétien, n'est-ce pas? On a besoin. Et Dieu, des fois, permet des situations dans lesquelles Dieu cherche une seule chose, qu'on prouve aux gens qu'on est véritablement chrétien. Il m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, deux fois, j'étais confronté dans une même journée, d'un laps de temps restreint, j'étais confronté à deux caissières où je suis allé faire mes courses et ils m'ont rendu de l'argent en plus. Ça arrive des fois, je ne sais pas s'il y a des caissières au milieu de nous. Ils m'ont rendu de l'argent, voilà. Et je me suis dit, mais il y a deux choses qu'on peut faire. On peut partir en disant merci Seigneur, mais je ne pense pas qu'on est comme ça, hein. Et j'ai dit non, mais en faisant ceci, puisque la Bible me dit que tout ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne le faites pas pour eux. Et je suis revenu sur mes pas en disant, monsieur, madame, plutôt, vous vous êtes trompé. Et ces gens étaient quand même interpellés en disant, mais à notre époque, au XXIe siècle, comment ça se fait qu'on trouve encore des gens qui puissent être honnêtes? Qui puissent être honnêtes. Mais nous avons besoin de prouver aux gens que nous sommes chrétiens. L'Église a besoin de prouver aux autres qu'on est l'Église de Jésus-Christ. Et permettez-moi, avec tout le respect que je dois aux serviteurs de Dieu, les pasteurs, on a besoin de prouver aux autres qu'on est pasteur. On a besoin de prouver aux autres qu'on est pasteur. Alors, le texte nous dit ceci, puisque c'est Luc qui raconte dans ce livre des Actes des Apôtres, l'introduction de ce livre des Actes des Apôtres, jusqu'au jour où Jésus fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres, ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, et j'aime bien la suite et qui va faire l'introduction, il leur apparut vivant. C'est la Pentecôte, c'est en fait la Pâque aujourd'hui. Hein. La Pâque, c'est la vie. Alors peut-être qu'on peut le dire un peu plus avec plus de force. Je pense gêner personne en le disant ainsi. Hein. Il leur apparut vivant. Et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Christ nous est apparu vivant. Gloire à Dieu. Voilà. Avez-vous fait l'expérience de ce Christ ressuscité? Est-ce que vous êtes vous-même une preuve que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce que vous êtes une preuve? Et si ce n'est pas le cas, mais l'Église est là pour vous prouver, pour prier pour vous, pour dispenser de la parole de Dieu, pour que vous puissiez devenir une preuve authentique que Jésus est vivant. Gloire à Dieu que Jésus est vivant. Les disciples ont été témoins de pas mal d'œuvres que Jésus accomplit. On aurait voulu être à côté de Jésus. Hein? Voilà. Et chaque jour, ils avaient droit à une parole, à une œuvre que Jésus accomplissait, un miracle. Et ils ont été témoins de plusieurs œuvres que Jésus accomplit, des témoins oculaires. Mais permettez-moi de vous dire que la perspective de Jésus, et notamment dans le livre des Actes des Apôtres, on le voit, c'était de pouvoir amener les disciples à une réalité de vie, une expression de vie. Une expression de vie. Et la perspective de Jésus, c'est qu'ils arrivent à la réception du Saint-Esprit pour qu'ils deviennent témoins de Jésus. J'aime la Pentecôte parce que la Pentecôte, c'est la présence du Saint-Esprit, mais c'est aussi la manifestation de l'Esprit avec tout ce qui engendre cela, les dons du Saint-Esprit et tout. Et la perspective de Jésus, c'est qu'ils deviennent témoins, ses témoins, remplis du Saint-Esprit, ayant l'onction de Dieu sur leur vie, pour gagner les nations, pour gagner les âmes, pour le salut des âmes. Si l'Église perd la perspective du salut des âmes, permettez-moi de vous dire, les autres, on peut être une bonne association, on peut être des associations qui mettent en œuvre toutes sortes d'œuvres caritatives, mais ce n'est pas ça le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est vraiment enrôler des âmes. C'est vraiment leur annoncer l'Évangile, c'est leur permettre de connaître Jésus, de vivre des choses que Dieu a préparées pour l'Église, pour que nous les pratiquions, mais pour eux, qu'ils vivent quelque chose qui va leur donner la certitude et de dire avec une multitude de personnes qui connaissent Jésus, il est réellement ressuscité, ce Jésus-là. Il est vivant, il est ressuscité. Alors, les disciples, ils ont connu Jésus, hein, ils ont été témoins de Jésus, témoins de son amour. Je pense que chacun d'entre nous, ce matin, peut dire, moi, je suis témoin de l'amour de Jésus. Je ne le connaissais pas, je l'offensais au travers de mes actes ou mes actions, mais cependant, lui ne m'aimait. On ne trouve rarement aujourd'hui des gens, hein, des gens qui expriment l'amour de cette façon. On a beau les offenser, on a beau de... Mais eux, ils restent intacts, ils restent intègres dans l'amour qu'ils ont reçu. Et l'amour de Jésus, les disciples ont été témoins de l'amour de Jésus. Dans Luc 5, verset 31-32, Jésus dit, prenant la parole, dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu à l'appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Ils ont été témoins de l'amour de Jésus. Témoins de l'amour de Jésus. Et d'ailleurs, ce n'est pas cette action de l'amour de Jésus manifestée en Jésus qui sont venus à la repentance. Et c'est d'ailleurs la preuve de chacun d'entre nous, d'une manière peut-être en partie, peut-être pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, nous avons été témoins de l'amour de Jésus. Et je souhaite peut-être pour quelqu'un que vous puissiez faire aussi cette expérience de connaître l'amour de Jésus. Ils ont été témoins des œuvres de Jésus. Acte 10, 38. L'apôtre Pierre va le rappeler dans un contexte un peu particulier. Il va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Témoin de son amour, témoin de ses œuvres, les œuvres, voilà. Et ce n'était pas ses œuvres proprement dit de lui-même, puisque Jésus va dire, je fais les œuvres que fait mon Père, ce que je vois faire le Père, je le fais pareillement. Les œuvres que Dieu avait préparées. Et chers amis, chers frères et sœurs, savez-vous que l'Église, Dieu a préparé des œuvres pour nous. Nous l'avons lu tout à l'heure, d'avance pour que nous les pratiquions. Souvent, on arrive dans des circonstances, on veut que les autres agissent, alors que ces circonstances que Dieu nous permet de vivre, c'est pour que nous puissions agir, parce que Dieu a préparé des œuvres. Alors nous attendons que les autres fassent quoi que ce soit. Et en réalité, c'est nous qui devons agir, parce que Dieu les a préparées pour nous. Et ces disciples ont été témoins des œuvres de Jésus. Ils ont été témoins des œuvres de Jésus. Ils ont été témoins de sa mort. La mort de Jésus, c'était quelque chose de difficile à accepter, à concevoir. De voir Jésus crucifié. Voyez-vous, ils ont été témoins. Et l'apôtre Pierre, dans l'une de ses prédications, acte 3, il va dire, vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous l'avez fait mourir. Donc ils étaient témoins, eux, ils ont vu la crucifixion de Jésus. Ils ont été témoins. Bien sûr qu'il faut que nous comprenions que la mort de Jésus est indispensable dans notre parcours spirituel et chrétien. Parce que c'est là où nous nous sommes identifiés par le baptême. Hein? Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, et nous nous sommes identifiés parce que nous avons donc reçu par la foi en son nom le pardon de nos péchés. Et nous en sommes fiers hein, d'être libérés de ce joug. Mais ils ont été témoins de sa mort. Témoins de sa mort. Voilà. C'était quelque chose de particulier de vivre la mort de Jésus, d'être témoin de la mort de Jésus. Tout cela pour vous dire que les disciples, donc, dans cette perspective de faire d'eux des témoins de Jésus, des témoins remplis du Saint-Esprit, ces étapes étaient indispensables dans le parcours. Il fallait qu'ils vivent ces étapes. Il fallait qu'ils vivent ces étapes. Mais, d'avant, Jésus avait annoncé. Et ce qui fait la force de la parole de Dieu, c'est toujours l'authenticité de cette parole et sa véracité. L'Évangile n'est pas simplement un livre, c'est le livre de Dieu. Amen, c'est le livre par lequel Dieu nous parle. Il nous parle et nous devons la recevoir comme telle que nous l'avons entendue, telle qu'elle est annoncée. Mais Jésus l'avait annoncée d'avance, il avait tout. Alors c'est beau parce que Jésus, alors, je vais dire quelque chose qui n'engage que moi, mais des fois c'est difficile de comprendre, on est dur d'entendement, hein. Ben, peut-être pas vous, hein. Mais moi particulièrement, je suis dur d'entendement. Pourquoi la parole de Dieu le dit, les dons spirituels nous le rappellent, et malgré cela, nous avons du mal à concevoir les choses. Et Jésus l'avait dit d'avance. Matthieu 16, 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Je ne sais pas si on était de ceux qui étaient là au moment où Jésus a déclaré ses paroles. Et traversant cette étape qui était difficile, l'étape de la mort de Jésus, mais étant Jésus dans ses trois jours, trois nuits dans le sein de la terre, peut-être que, je ne sais pas quelle aurait été notre attitude. On aurait pu se comporter de telle manière en disant, trois jours va passer. Trois jours va arriver, et dans le troisième jour, je suis convaincu que Jésus va être, il sera ressuscité. Mais contrairement à cela, les disciples, ils n'ont pas eu cette attitude-là. On ne veut pas les juger quoi que ce soit, parce que des fois, nous-mêmes, pour d'autres situations, on est pareil. Hein? Voilà. Mais cependant, ils devaient réagir ainsi. Il sera ressuscité, ce Jésus-là. Je le sais. Mais bon, cela étant dit entre nous, frères et sœurs, c'est que, il nous arrive quand même d'être animés de la conviction et de la foi. Hein? Heureusement d'ailleurs. Il nous arrive d'être animés de la conviction. Heureusement. Mais il y a des étapes dans notre vie où on est un peu comme emporté, j'ose pas dire l'incrédulité, mais presque. Alors qu'on a la parole de Dieu. Mais Jésus l'avait annoncé d'avance pour les rassurer. C'était donc une certitude. Quelle autre certitude avons-nous aujourd'hui si ce n'est pas la parole de Dieu? Si ce n'est pas cette parole sur laquelle on doit s'appuyer, quelle est notre certitude? Qu'est-ce qui fait que nous avons de l'assurance aujourd'hui? Ce n'est pas nos ressentis ou quoi que ce soit, parce que c'est souvent fructueux, c'est-à-dire que c'est souvent par rapport au contexte dans lequel on est. Aujourd'hui, on est joyeux, demain, on peut pleurer, on est mécontent. Voilà. Il y a le soleil aujourd'hui, c'est beau. Demain, la pluie tombe, c'est différent. Ce n'est pas ainsi qu'on marche avec le Jésus. Il y a la parole de Dieu, la parole de Dieu et la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne des convictions, qui nous donne de l'assurance. Hein? Et il y a des certitudes. Jésus l'avait dit, il avait déclaré. Alors peut-être qu'on peut se poser une question et être un peu dans la réflexion ce matin. La mort de Jésus, c'est une réalité qu'il faut concevoir, qu'il faut vivre aussi. Mais s'il n'y avait pas la résurrection de Jésus, si Jésus n'était pas ressuscité, déjà, vous savez qu'est-ce que Paul disait? Tout ce qu'on fait là ne servirait à rien. Pourquoi on s'investirait dans des actions pour dire aux gens une chose qui n'est pas vraie? Mais si Jésus n'était pas ressuscité, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15:4, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. S'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. Il n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Parce que ce Jésus qui est monté le jour de l'ascension, les disciples l'ont vu. Et même les anges sont venus là en leur disant, pour les inciter, pour les motiver. Des fois, on est un peu comme ça, hein, le Seigneur a besoin de nous motiver davantage, nous faire bouger, parce qu'on est souvent tombé dans une sorte de confort, confort aussi. Et Jésus est venu en leur disant, enfin, les anges qui étaient envoyés de la part de Dieu leur a dit, mais pourquoi restez-vous à regarder ce Jésus qui est enlevé du milieu de vous? Il reviendra, mais votre responsabilité, ce n'est pas rester dans cette attitude, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi restez-vous? Et si Jésus n'était pas ressuscité, il n'aurait pas eu la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être de ceux qui sont donc qualifiés comme des pentecôtistes et la vraie Pentecôte. Parce que entre nous aujourd'hui, hein, on peut le dire, enfin, chacun jugera son niveau. Qu'est-ce que signifie la Pentecôte aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, les travers qu'on voit? Mais gardons cette bonne parole et gardons les lignes de conduite que Dieu nous a données par le Saint-Esprit. La Pentecôte, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. Mais Jésus est réellement ressuscité, il est monté au ciel, il a été glorifié et il a répandu sur nous le Saint-Esprit et tout ce qui s'ensuit. Il n'y aurait pas eu la mission de l'Église. Aller par tout le monde annoncer l'Évangile. Aller par tout le monde annoncer l'Évangile. C'est l'une des missions que l'Église doit vraiment prendre en considération, d'annoncer la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous. Je suis avec vous, dira Jésus. S'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus, il n'y aurait pas eu, et permettez-moi, avec tout le respect que je dois à l'œuvre de Dieu qui a commencé dans ce pays de France, il n'y aurait pas eu l'œuvre de Dieu à La Réunion. Il n'y aurait pas eu l'œuvre de Dieu à La Réunion. Il n'y aurait même pas eu l'œuvre de Dieu en métropole. Si Jésus n'était pas ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu les miracles qu'on a vécus. Les guérisons, les délivrances, il n'y aurait pas eu tout ça. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu la croissance. On a parlé de l'œuvre de Dieu, de la porte ouverte. C'est beau cette œuvre-là. Elle est belle, cette œuvre. Voilà. Que Dieu nous garde de les oublier, tous ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Que Dieu nous garde de les oublier. Et si la résurrection n'aurait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu tout. Mais la résurrection de Jésus était indispensable, pour ne pas dire vitale. Il fallait que Jésus ressuscite. Et j'allais dire, et j'aimerais le dire, ça c'est une façon que je m'exprime de cette manière, hein. Même la mort, même l'enfer réuni ne pouvait rien faire face à ce Jésus qui devait ressusciter des morts. Il ne pouvait rien, tout était écrit d'avance. Et ce qui était écrit, il fallait qu'elle s'accomplisse. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille, et aujourd'hui il est le même, il ne change pas. David disait ceci, dans un des psaumes, le psaume 110, David dit cette parole qui a été reprise d'ailleurs par l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte. Il va dire, « De l'Éternel, mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Assis-toi à ma droite. La glorification, l'ascension de Jésus. Et l'apôtre Pierre va reprendre cette parole par le Saint-Esprit. Alors c'est beau, je souligne quelque chose. Ce matin, vous connaissez déjà, permettez-moi de simplement de rappeler. Comment pouvons-nous avoir la certitude qu'il a parlé par le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit rappelait quelque chose qui était écrit dans le psaume 110. Et l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il est rempli du Saint-Esprit, rappelait une vérité qui devait s'accomplir et qui s'est accomplie. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. » Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. La mort, ça fait peur des fois. Hein? Mais la mort avec Christ bannit la peur parce que nous avons l'espérance de la résurrection. Voilà. Car même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Voilà, toute la résurrection. Et le verset 36 du même chapitre 3, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Et j'aime cette, la suite de cette déclaration, que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël, on peut dire que tous les hommes doivent savoir. Ils doivent savoir que Jésus est réellement crucifié, mais qu'il est ressuscité. Le monde doit savoir. Il faut donc qu'ils sachent que Jésus est réellement ressuscité et qu'il est vivant. Frères, sœurs, Église de Jésus, et j'en fais partie. Notre mission en nous, c'est de prouver aux gens que Jésus est vivant. Comme disait notre frère tout à l'heure, le pasteur, la Pentecôte, on la vit tous les jours, on doit la vivre. Excusez-moi, ce n'est pas la Pentecôte, c'est la Pâque. On doit la vivre tous les jours, la Pâque. L'expression de la vie, elle est là. Hein, elle est là. Et il faut qu'ils sachent que Jésus est réellement ressuscité. Les témoins de sa résurrection, les disciples, et j'en passe, et ils disaient, il est réellement ressuscité. Pour avoir une telle affirmation, une telle conviction, il faut qu'ils étaient témoins de ce Jésus. Jésus leur a apparu vivant. Quand je me suis converti, je suis sorti de chez moi, j'étais mort, et je suis revenu, j'étais vivant. Et entre les deux, j'ai rencontré Jésus. Je suis parti pour mettre fin à ma vie, je suis revenu, et aujourd'hui, ça fait 40 ans que le Seigneur m'a délivré du suicide. Je l'ai réellement ressuscité, et je peux dire aujourd'hui qu'il est vivant. Jésus, qu'il est vivant. Le tombeau est vide. Il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour aller sur le tombeau de Jésus. Beaucoup. Sans offenser personne, vaut mieux investir cet argent pour ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Vaut mieux, c'est plus nécessaire. Mais Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi le faites-vous? Certainement parce qu'ils sont dans l'ignorance, je suis d'accord. Et pourquoi vous faites-vous? Jésus est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Parce qu'il est le seul qui a pu le dire. Et je recite cette déclaration de le livre de l'Apocalypse. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Nous, on peut pas encore le dire. Mais lui, il l'a dit. J'étais mort, maintenant je suis vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un un jour a porté une illustration et il disait ceci, que la mort était un lieu, le séjour des morts était un lieu où lesquels toutes les personnes qui descendaient ne pouvaient pas y remonter. Parce qu'il y avait quelqu'un qui tenait les clés de le séjour des morts. Et un jour il est venu, c'est une illustration, hein. Et il a vu venir dans ce séjour des morts quelqu'un qui était différent des autres, qui n'avait pas la même gloire, qui n'avait pas le même éclat. Et celui-ci a pris la clé de la main de celui qui tenait les clés du séjour des morts. Il a pris les clés. Est-ce que vous voyez l'image? Et il a dit, tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, maintenant je tiens les clés du séjour des morts. Il a ouvert la porte. Et peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Jésus lui a dit, sortez maintenant. Sortez de la mort. Sortez. La porte est ouverte. Sortez de là. Il a pris les clés. Je tiens les clés maintenant. Et permettez-moi de vous dire que les clés, il les a toujours. Il a brisé la mort. C'est fini. Pour ceux qui veulent vivre cette expérience, c'est possible à toi de le vivre. Ils ont été témoins, le tombeau est vide. L'incrédulité a été anéantie. Les disciples qui avaient du mal et qui étaient dans la peur dans cette maison, ils étaient donc renfermés dans la représailles des Juifs et des scribes, des pharisiens, des hommes extrêmement religieux. Jésus leur a apparu vivant. C'est impossible. C'est impossible de paraître au milieu d'une maison alors que tout est fermé. Il faut que nous soyons changés, notre corps est transformé. C'est impossible de le faire. Et Jésus leur apparut au milieu d'eux et leur disait, mais c'est moi. Et même dans leur incrédulité, Jésus sait, il sait faire, il sait exactement comment faire pour briser l'incrédulité qui, des fois, dans nos cœurs, dans notre vie. Il a dit, mais regardez, mais c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et il a su les prouver qu'il était véritablement celui qui est ressuscité d'entre les morts. Donc l'incrédulité a été brisée par la résurrection de Jésus. Plus besoin, j'ai mis cela en suspens, plus besoin d'embaumer le corps du défunt parce que celui-ci est vivant. Ça, c'est une illustration, bien sûr. On n'a plus besoin de le faire, mais nous avons besoin de porter l'odeur de Christ autour de nous. Plus besoin de vivre dans la peur. Jésus est vivant. Plus besoin de vivre animé de la tristesse, comme a été les disciples d'Emmaüs. Sur le chemin, ils étaient animés de la tristesse. Jésus était mort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. On ne sait pas. Mais nous, on le sait, parce qu'il nous a témoigné par le Saint-Esprit qui l'a répandu sur nous, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il revient bientôt. Plus besoin de vivre dans le désespoir, parce que ce Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que nous l'avons vu au ciel. Bien sûr, il n'est pas question de marcher la tête levée vers le ciel, non. Mais il est question de marcher dans cette espérance glorieuse et vivante du retour de Jésus. Et que plaise à Dieu que lorsque Jésus reviendra, il nous trouve dans une attitude de foi. Parce que le Fils de l'homme trouvera la foi lorsqu'il reviendra. C'est deux fois. Plus besoin de vivre sans force. J'aime bien cette expression, à La Réunion on l'exprime souvent. Hein. Voilà. Et comme disait le regretté Aimé Cizeron, il prenait souvent cette expression. Hélas mon frère, hélas ma soeur, il meurt. Il n'y a plus d'espoir. Voilà. Et souvent on entend, Seigneur, le pauvre serviteur que je suis, le misérable serviteur que je suis, la servante que je suis. Bien, c'est vrai, d'une manière humaine, c'est vrai qu'on a besoin de cette puissance. Mais la puissance, nous l'avons en nous, par le Saint-Esprit. Elle est réelle en nous. Et aussi vrai qu'on conçoit la faiblesse de l'être humain qu'on est, on doit aussi concevoir la réalité de la puissance de Dieu en nous, qui nous permet non pas de faire ce qu'on veut, mais de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a oint du Saint-Esprit. Et plus besoin de vivre comme quelqu'un qui n'est sans puissance. Qu'est-ce qu'a besoin le monde? Qu'est-ce qu'a besoin nos proches? Qu'est-ce qu'a besoin les gens qui nous entourent, les gens qu'on côtoie tous les jours? C'est de savoir qu'il est réellement ressuscité et qu'il est vivant. Nous sommes témoins de cette... Les disciples étaient témoins de la résurrection de Jésus. Et nous, l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, aussi vrai que nous sommes identifiés de sa mort, nous avons vécu aussi et nous vivons dans cette résurrection de Jésus. Nous avons la vie. Nous qui étions morts, nous avons la vie. Nous avons la vie. La Bible dit ceci, et je conclurai avec ce verset de Ésaïe 38, 18-19. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est lui qui te loue. Et l'auteur va dire ceci, comme moi aujourd'hui. Hein? Et l'Église que nous sommes, nous devons vivre dans cette expression de vie. Je ne suis pas prophète, mais je vous dirai que Dieu va vous donner certainement des situations dans lesquelles vous devrez manifester cette vie. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Ils attendent que voir la différence. Peut-être qu'il y a des gens, ils en ont assez avec vie religieuse. Ils ont besoin de voir quelque chose de différent. Et l'Église est amenée à montrer la différence. Une authenticité d'une vie, d'une puissance de Dieu. Alors peut-être que ce matin, si le pasteur me permet, on pourrait avoir un temps de prière déjà pour louer Dieu, parce que ce n'est pas les morts qui louent le Seigneur, c'est les vivants qui louent Dieu. Et peut-être que quelqu'un dans ce matin a besoin de retrouver cette ferveur. Il a besoin de retrouver cette vie. À un moment dans ma vie, j'ai été extrêmement découragé. Et j'ai failli même abandonner le ministère. Et j'avais dit rien à personne. Parce que souvent, ça se passe comme ça. On vient, on essaye de se voiler le visage. On essaye de montrer que ça ne va pas. On sourit avec les gens, on discute, et ça a été mon cas. Et dans une réunion de famille, un culte familial, ma nièce qui est aujourd'hui enrôlée aussi dans le ministère avec son mari, à cette époque-là, elle avait 6 ans. 6 ans. Et j'étais tellement découragé. Et à un moment, elle a commencé, en tant que 6 ans, elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. Comme un terrain qui était aride et desséché, qui attendait que la pluie du ciel. Ça a été l'état de mon cœur. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit m'a redonné de l'engouement, de la fraîcheur. Et je suis sorti de là fortifié, encouragé. Vous ne pouvez pas imaginer, frères et sœurs, que votre louange, que votre participation dans cette expression de vie, ça peut avoir un tel impact. Que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église. N'acceptez jamais que vous puissiez tomber dans une attitude, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si c'est juste, une attitude de mort, où on n'a plus envie de louer Dieu, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Brisez ces choses. Et peut-être quelqu'un a besoin qu'on prie pour elle ce matin, pour retrouver cette expression de vie, de la présence de Jésus. Alors on peut déjà rendre grâce à Dieu de ce que nous vivons et nous sommes de ceux qui vivent la réalité de la Pâque. Jésus est réellement ressuscité et je veux prouver aux autres qu'il est réellement ressuscité parce qu'il vit en moi. Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons bénir ton nom. Nous étions retenus par le pouvoir du péché, mais par la mort qui nous retenait. Et aucun de ceux qui voulaient nous retirer de là n'en avait le pouvoir et l'autorité. Mais toi seul es venu. Et tu nous as véritablement fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à ta lumière. Et nous te remercions, Jésus, de ce que maintenant l'Église que nous sommes, l'Église que nous représentons, quel que soit le lieu où nous sommes de ceux qui manifestons la vie. Et nous te prions de nous maintenir dans cette attitude et cette expression de vie par le Saint-Esprit. Et que lorsque la mort essaiera, lorsque l'ennemi de nos âmes essaiera par tous les moyens de ravir cette expression, nous puissions être en mesure de la combattre par la foi. Et je te prie ce matin en étendant ta main, toi qui connais les cœurs et les vies. Je te prie si quelqu'un ce matin au milieu de nous, toi qui vois, qui connais, Seigneur, s'il y a besoin de retrouver cette expression, nous te prions d'étendre ta main, de visiter ce frère, cette sœur, cette personne nouvelle et de lui amener dans cette réalité de vie en Jésus. Manifeste maintenant ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils. À toi la gloire et l'honneur. Nous allons certainement nous retrouver en famille et nous te prions que dans cette rencontre familiale, peut-être amicale, que nous puissions exprimer cette vie nouvelle de Jésus en nous, en étendant ta main, en manifestant ta gloire, Seigneur. À toute la gloire et l'honneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Chers amis, peut-être juste, quand j'ai rencontré Jésus, j'étais sur le point de me suicider, et j'étais dans une attitude de mort. Même ma pensée était des pensées qui étaient attrées à la mort. Le diable m'harcelait de toutes parts. Il me culpabilisait. Mais quand j'ai rencontré Jésus, c'est incroyable, et je ne dis pas quelque chose qui vous paraît étrange ce matin parce que vous vivez la même chose. Quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai le rencontré véritablement dans une rencontre personnelle intime avec Jésus, permettez-moi de vous dire que je ne connaissais pas la Bible. J'avais aucune notion de la Bible. Je ne connaissais pas les églises. Mais j'ai rencontré Jésus. Et quand je suis sorti de là, c'était une expression de vie. Jamais j'avais vu la vie aussi belle que je l'ai vue là. Aussi. Et depuis, je m'efforce de pouvoir conserver cette réalité de ce que Jésus m'a communiqué au travers de sa présence et surtout de le garder lui. On peut perdre tout, Mais ne perdons jamais cette relation et cette communion avec Jésus. Merci beaucoup pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'Église là, dans votre région. Et merci au pasteur aussi.